Polytech.
Il y a beaucoup des intérêts.
Il y a l'intérêt, ce que j'appelle intrinsèque. Merci, c'est bon. Il y a l'intérêt intrinsèque de la formalisation. Quand Jérôme présentait, quand tu présentais la manière dont ça fonctionne, évidemment, chacun ses petites manies. Hein, bon, je me disais, comment on fait marcher les rétentions et les protentions, d'où sort là-dedans, quoi. Ce qui est très. Alors, j'emploie des termes un peu techniques. Un philosophe allemand important, il y a un siècle à peu près, a théorisé ce qu'il appelait les objets temporels. Et l'exemple qu'il a pris de l'objet temporel, par exemple, c'est la mélodie. C'est un exemple très simplifié, bien entendu. Et il a fait des vraies découvertes philosophiques là-dedans. Enfin, ou plutôt, il a redécouvert des concepts qu'Augustin avait déjà posés, Saint-Augustin, et en particulier ce qu'il appelle des rétentions primaires. Bon, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais il a distingué différents types de rétentions, différents types de ce qu'il appelle des protentions, ce que tu appelles des anticipations de la machine. Moi-même, j'ai un peu développé à partir de ces concepts-là ce que j'appelle le concept de rétention tertiaire, et pour moi, c'est une rétention tertiaire diabolique. Parce qu'une rétention tertiaire, c'est une rétention artificielle. Et typiquement, ben, c'est diabolique, parce que tu disais tout à l'heure à Bernard, mais elle n'a pas oublié ce que tu as joué dans les coups d'avant. Ça, c'est terrible. Et c'est fascinant, absolument fascinant. Alors, pour moi, il y a trois intérêts fondamentaux à travailler avec cet instrument, ou ce dispositif. Je dis dispositif pour ne pas choquer Bernard Sèvres. Il n'est pas là, mais j'espère qu'on en reparlera avec lui. Il y a l'intérêt intrinsèque, c'est-à-dire de la formalisation. D'une façon, moi j'ai une théorie générale de la formalisation. Par exemple, quand Guido d'Arezzo a commencé à formaliser la portée diastématique, il a provoqué des événements musicaux. Par un accident, parce que c'est un accident. D'ailleurs, il l'a fait de manière purement accidentelle. Mais il a provoqué un truc incroyable dans lequel nous sommes toujours là. Nous sommes des échos en ce moment, là, en ce moment même, de ce qui s'est passé il y a 1000 ans. Et c'est un stade de formalisation. Et en fait, quand on extériorise quelque chose, c'est-à-dire qu'on dit, par exemple, au lieu de faire ce geste-là, je vais faire un petit bidule avec un ressort qui va faire le geste à ma place, on formalise le geste. C'est-à-dire qu'on, et du coup, on a une réflexivité par rapport à ça. Alors, il y a deux attitudes par rapport à la technique. Une, chez les philosophes, classiquement, consiste à la rejeter, des artifices, etc. Une autre consiste à dire, moi je suis plutôt de ce côté-là, ça fait réfléchir. Mais évidemment, ça peut rendre complètement débile aussi. Hein. Ça fait réfléchir et ça empêche en même temps de réfléchir. C'est une super boîte à rythme, bien entendu, ce truc-là, dans la mesure où, de toute façon, un ordinateur, c'est une boîte à rythme. Un ordinateur, c'est une horloge. Et ça bat. Voilà. Ce qu'on appelle la fréquence d'un ordinateur, c'est le battement. Ça bat combien de fois par seconde, c'est ça qu'on appelle la fréquence. Et c'est vraiment absolument bête, quoi. C'est un battement absolument mécanisé, parce que si ce n'était pas ça, ça ne marcherait tout simplement pas. Donc, la condition de son fonctionnement, c'est que ce soit absolument bête. Et comment on fait des trucs intelligents avec ça? Alors, il y a toutes les questions, d'abord théoriques et formelles qui se posent, là, que tu as présentées tout à l'heure, et qui sont passionnantes. Il y a deuxièmement, et qui posent des problèmes aussi de théorie de la musique, hein, qui peuvent revenir vers la théorie de la musique, apporter des questions très nouvelles à la théorie de la musique. La théorie de la musique, c'est vachement important. Parce que, dans ce qu'on appelle la musique savante, la théorie de la musique est une dimension quoi, qu'on ne peut pas supprimer. Il y a deuxièmement, ce que dit Bernard, c'est ce qui m'intéresse le plus, moi. C'est-à-dire, aujourd'hui, je veux dire, dans l'exercice qu'on va faire là, c'est la réflexivité. Voilà. C'est le fait que, ben, vous l'avez vu, ben, il regarde ce qui se passe. Il écoute, finalement, les conséquences de cette formalisation qui donne à voir des trucs qu'il ne voyait pas, quoi, et que nous non plus, on ne voyait pas, qu'on n'entendait pas, etc. Que nous, on ne voyait pas, c'est normal, mais pour lui, c'est plus surprenant. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est de la réflexivité. Et on l'avait utilisé il y a un an et demi à Tournai avec Raphaël Imbert. Bon. Et moi je regrettais qu'on ne voit pas les. Parce que ça produit, vous l'avez vu tout à l'heure, là, avec un contexte, on voit le piano roll, bon, ça produit des choses, on peut les voir. Et je me disais, mais c'est vachement intéressant pour le public de voir ça, à condition de ne pas en faire une performance spectaculaire, un son et lumière technologique. Mais si on en fait un instrument d'intelligibilité collective, d'analyse aussi, parce que ça analyse, c'est de l'analyse en fait, ces trucs-là. Ce sont des algorithmes qui analysent extrêmement rapidement, encore plus vite que 200 000 km par seconde, des processus et qui sont capables de les restituer plus vite que nous. Ils vont plus vite que nous, c'est pour ça que ça peut fonctionner comme ça. Et ça produit Voilà, ça donne une dimension analytique que, par exemple, des gens qui ne savent pas lire la musique ne verront pas. Mais le pianorol donne à voir des trucs que quelqu'un qui n'est pas musique ne pourrait pas voir. Un musicien qui a appris la musique, qui l'a intériorisée, qui a appris la musique, je veux dire, écrite, solfégiée, tout ça, finalement, il a des images mentales, voilà, et pas simplement mentales, corporelles, parce que tout ça est complètement intégré, que quelqu'un comme moi, hein, moi je ne lis pas la musique, je n'ai pas. Et ça, c'est très très important. La technologie permet d'ouvrir des choses qui n'étaient pas accessibles à des gens d'une manière formidable. Donc c'était un petit peu ça l'idée de départ, c'est ce que j'avais proposé, qui était de dire réutilisons au max, maintenant ça sera au max avec un ProTec, mais pour donner à voir des choses à un public qui ne pourrait pas les voir. Mais, et puis il y a un troisième aspect évidemment, c'est comment jouer avec ça individuellement mais aussi collectivement. Et là on a une ambition, je ne sais pas si on y arrivera, parce que c'est ce que disait Pierre Sauvanel l'autre jour, c'est très très ambitieux. Enfin nous pensons qu'il faut être très très ambitieux. Quand on n'est pas très 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 ambitieux, on n'est pas ambitieux du tout. Donc il faut être ambitieux, donc très 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 ambitieux. Et ce que nous aimerions faire, c'est arriver à faire aussi avec des instruments comme ça, des instruments d'aide à l'improvisation collective, y compris à un moment donné avec les processus d'annotation, dans la catégorisation, tout ça, donner des indications. Par exemple. Bernard, vous voyez bien, pendant, hein, il donne des indications, on se dit, mais ça pourrait être génial dans la cathédrale de Tournette, donner des indications à 1000 personnes. Et avec des instruments comme ça, on peut aller très loin, c'est-à-dire que le public devient une dimension de l'événement. Voilà, on rêve de ça. Je ne sais pas si on y arrivera, parce qu'effectivement, c'est très ambitieux, mais c'est un petit peu avec Marx qu'on a en tête, quoi, avec Marx Cheminot.